Isabelle de Montolieu, le serin de Jean-Jacques Rousseau. Anecdote inédite. Ma patrie est celle de Jean-Jacques Rousseau. Je fus longtemps enthousiaste de son génie et de ses ouvrages. J'étais très jeune lorsque je perdis une mère chérie qui me servait de guide. Je restais seule avec mon père qui, trop occupé de ses affaires, ne pouvait diriger ni surveiller mes lectures. Les œuvres de Jean-Jacques faisaient le fond d'une petite bibliothèque à ma disposition. Dès que j'eus commencé à les lire, toute autre lecture me devint insipide et je crois que j'y ai plus gagné que perdu. J'ai lu, il est vrai, bien jeune encore, un roman qu'il dit lui-même être dangereux. Mais du moins je n'en ai pas lu d'autres, et dans celui-là j'ai trouvé bien plus d'encouragement à la vertu qu'au vice. Si j'ai bien compris la phrase tant citée de sa préface, c'est en général la lecture des romans qu'il interdit aux jeunes filles, plutôt que celle de son Héloïse en particulier. Quoi qu'il en soit, je puis affirmer que la lecture répétée de la nouvelle Héloïse et d'Émile, loin d'avoir eu du danger pour moi, m'a toujours fait désirer plus vivement de devenir et meilleure et plus vertueuse. Je lui dois peut-être aussi d'avoir évité tous les dangers de mon âge dans une ville où les jeunes gens des deux sexes ont de fréquentes occasions de se rencontrer. Combien tous les hommes me paraissaient au-dessous de cet auteur sublime dont je cherchais en vain le modèle dans les lieux de sa naissance. Et lorsque je venais de lire ses écrits, comme tout ce que j'entendais me paraissait d'une fadeur insupportable. La magie de son style, ce charme inconnu qu'on ne peut définir ni imiter, qui donne à sa prose l'effet d'une musique délicieuse, m'enchantait au point que je ne pouvais supposer aucun défaut à l'être qui exprimait ses pensées avec tant de sensibilité et d'énergie. Je lui trouvais tous les caractères de l'idéal de la perfection. J'aurais voulu pouvoir vivre avec lui, être sa sœur, son amie, sa compagne, le soigner dans ses maux, le consoler de ses peines, lui consacrer toute mon existence. J'en étais sans cesse occupée. Cette passion pour un homme que je ne connaissais que par ses écrits était sans doute une folie. Mais si, comme j'en suis persuadée, je lui dois de m'avoir garanti d'autres passions et d'autres folies, puis-je en vouloir à celui qui me l'inspirait? Elle remplissait entièrement mon jeune cœur, ou plutôt ma très jeune tête, lorsque Jean-Jacques mourut à Ermenonville, et très certainement il ne fut regretté de personne plus sincèrement que de sa jeune amie inconnue, dont jamais il ne s'était douté. 100 fois j'avais voulu lui écrire, lui apprendre mon admiration, mon enthousiasme, mais la timidité de mon âge, une juste défiance de moi-même et de mon style, plus que tout encore, la crainte de perdre cette chère illusion qui me faisait imaginer qu'il m'aurait aimé s'il eût su combien je l'aimais, m'avait arrêtée. Il n'était plus temps, et cela même augmentait mes regrets. Il me semblait que mon attachement aurait pu embellir et prolonger son existence. J'aurais voulu du moins rendre un hommage à sa mémoire. Je l'essayais, et ne fus contente d'aucun de mes essais, soit que je manquasse de talent, ou que je sentisse trop pour exprimer à mon gré mes sentiments. J'avais un oncle très aimable, assez bon poète de société, qui m'avait paru partager mon enthousiasme pour notre compatriote. Lorsqu'il me voyait rougir et m'animer en parlant de lui, il riait et me disait en me frappant sur l'épaule « Bonne Pauline, tu es digne d'être l'amie de Jean-Jacques ». C'était, à mon gré, le plus beau des éloges. Il me rendait bien fière de moi-même. Ce fut à lui que je m'adressai en le conjurant d'employer tout son cœur et tout son esprit à faire une épitaphe pour mon cher Jean-Jacques. « J'y penserai », me dit-il. Et dès le lendemain, il m'en apporta une qui me mit en fureur, que je déchirai et jetai au feu, mais que ma bonne mémoire retint malgré moi. Je ne la crois pas connue. Mon oncle avait le double mérite de rimer avec esprit et facilité, et de n'attacher ni prétention ni importance à ses productions. « Mes vers n'ont point de lendemain », nous disait-il souvent, en nous récitant ce qu'il venait de faire. Cependant, plusieurs de ses poésies auraient mérité de lui survivre. Mais c'était si peu son opinion qu'on n'a trouvé dans ses papiers, après sa mort, ni brouillon, ni copie d'aucune de ses compositions. C'est un trait si rare chez les poètes que je me plais à le citer, ainsi que l'épitaphe qui avait si fort excité ma colère, et que je trouve à présent moins mauvaise. Si j'eus Rousseau, en lui tout fut contraste. Il aima les humains, mais ce fut pour les fuir. Modeste avec orgueil, il fut pauvre avec faste, ne sut pas vivre et sut mourir. « Et quoi, mon oncle ? » dis-je avec indignation. « N'aviez-vous donc que cela à dire ? » ?»«
Rien autre chose, ma nièce. »
« Adieu, pas autre chose ! Et sa sensibilité profonde, et cette ardente humanité, et ce génie si supérieur, et cette âme si sublime, et sa magique éloquence, et sa passion pour la vérité, et cette occupation touchante du bonheur des enfants, et tout ce qui le distingue, qui le met si fort au-dessus de tous les écrivains, de tous les mortels. Mon oncle, votre épitaphe me paraît une cruelle satire. Je me suis bien trompée. Je croyais que vous partagiez mon admiration, que vous étiez son ami dévoué. Son admirateur, je le suis sans aucun doute. Son ami, le ciel m'en préserve. Pauline, un jour tu reviendras de ton erreur. Tu verras que l'être à peu près divin que tu viens de peindre n'était souvent qu'un mortel bien faible et bien orgueilleux. Mon oncle, tu es bien courroucé. Eh bien, venge-toi sur mon épitaphe, je te l'abandonne. Au reste, nous allons avoir sous le titre de confession les mémoires de cet homme célèbre. L'apôtre de la vérité, comme tu le nommes, n'en aura pas imposé, et nous saurons à quoi nous en tenir sur son compte. En attendant, calme ton imagination, de peur qu'elle ne t'égare comme la sienne qui fit son malheur et celui de tous ceux qui l'ont aimé. Les confessions parurent en effet quelques mois après, et le voile tomba. « Voilà ton ami Jean-Jacques, » me dit mon oncle en me les apportant. « Je conviens avec toi qu'il est véridique, mais il prouve que s'il y a de la vertu à ne pas mentir, il y en a aussi à ne pas tout dire. » Je lus, et j'en revins à peu près à l'opinion de mon oncle. Je dois avouer cependant que, dans plus d'une page de cet inconcevable ouvrage, je retrouvais toute mon admiration et tous mes regrets, que ce fut même celui qui m'attacha et m'attendrit le plus. Mais en même temps, j'eus à rougir plus d'une fois de mon adoration insensée qui s'évanouit par degrés et se changea en tendre compassion sur ces erreurs dont la source fut une sensibilité exaltée. Rousseau fut toujours pour moi le premier des écrivains, mais non plus le premier des hommes. Les années amenèrent enfin l'âge de la raison. Je lus d'autres bons ouvrages, je relus les siens, et fus entièrement convaincu que Rousseau était en effet un composé des plus étonnants contrastes. Des affaires m'appelèrent, en 1800, de Genève à Paris. Je visitai tous les monuments de la capitale, et celui qui, après le Louvre, me parut mériter le plus d'admiration générale fut ce superbe édifice que l'on nommait alors le Panthéon. Dans l'église souterraine, on me fit remarquer, parmi d'autres tombeaux, celui de Jean-Jacques Rousseau. À cette vue, à ce nom, je me rappelai mon ancienne passion, et j'en retrouvai même dans mon cœur quelque étincelle. Ce bras armé d'un flambeau qui sortait de la tombe entr'ouverte me parut être la sublime image de l'immortalité et du feu de son génie. Je me retraçai tour à tour, et ses plus belles pensées, et ses sophismes, et sa grandeur, et sa faiblesse, et ses torts, et ses malheurs, et l'épitaphe de mon oncle. J'étais absorbé dans ces souvenirs lorsque j'aperçus, sous le pli du bras qui tient le flambeau, une petite boîte ficelée. Dans ce moment, mes amis se rapprochèrent, et avec eux celui qui nous montrait l'édifice. Je me hâtai de lui demander, en la lui montrant, ce que c'était que cette petite boîte. Il parut surpris, et m'assura qu'il ignorait quand et comment elle avait été déposée là. Il fallait, en effet, toute l'attention que j'avais mise à examiner le monument pour la découvrir, et la poussière qui la couvrait indiquait qu'elle était là depuis quelque temps. Le concierge la prit et me la donna. On lisait, écrit sur le couvercle de la boîte, d'une petite écriture de femme, « Jean-Jacques m'aimait ». Notre curiosité, très excitée, fut bientôt satisfaite. Le concierge reprit la boîte, coupa la ficelle, l'ouvrit, et nous présenta un très joli serin de canari, très proprement empaillé et couché sur un lit de coton. Le gardien leva les épaules en souriant de pitié et ne fit nulle difficulté de me céder ce qu'il appelait ma « trouvaille ». J'étais redevenue bien jeune auprès du monument de Rousseau, car j'emportais la petite boîte et la petite bête avec un vrai plaisir d'enfant. Et de crainte qu'on ne m'en séparât,
je me hâtai de cacher mon trésor et de m'en aller l'admirer chez moi. Je sortis avec précaution le petit oiseau de sa niche, je lissai son joli plumage jaune, je soufflai dessus pour le relever, je perchai ensuite l'oiseau sur mon doigt. On l'aurait cru vivant. Deux jets noirs remplaçaient ses yeux à s'y tromper. L'absence totale d'air l'avait sans doute conservé si bien qu'il paraissait prêt à chanter. Ah, combien j'aurais désiré qu'il pût parler et me dire à quel titre il avait appartenu à Jean-Jacques, et qui s'était donné le soin de le placer sur son tombeau. Je ne pouvais me rappeler aucune page de ses œuvres où il fut question d'un oiseau. Cependant, je me promis de relire ses confessions, que je n'avais pas voulu rouvrir depuis que leur lecture m'avait désenchanté. En attendant, j'eus la fantaisie de placer le serin sur un buste de son maître que j'avais sur ma cheminée. Je me levai dans cette intention, la boîte tombe, je la relève. Le coton s'était dérangé, et ce dérangement me fait apercevoir un petit papier fin écrit de la même main que le dessus de la boîte. Il y avait pour adresse « À ceux qui trouveront mon serin ». C'était indubitablement à moi. Je lus, et j'appris ainsi l'histoire de mon oiseau, que je vais copier sans rien changer au récit naïf de son historienne. Heureuse et simple Rosine, combien autrefois j'aurais envié ton sort. Tu fus pour Jean-Jacques ce que j'ai tant désiré être, son élève, son ami. Et sans doute tu le méritais mieux que moi, puisque tes sentiments et ta vénération n'ont point varié. Copie de l'écrit trouvé au fond de la boîte. C'est demain que le monument qu'on élève au Panthéon, à mon vieil ami, sera terminé. Je ne veux plus perdre un seul jour. J'irai, comme il me l'a demandé, déposer notre serin sur son tombeau. Hélas, depuis longtemps tous deux ont cessé de vivre, et je n'ai pu remplir encore ma promesse. Mais j'ai tout préparé. Son carino, bien empaillé, repose dans une petite boîte et j'espère pouvoir trouver un moment pour le réunir à son bon maître, quoiqu'il soit allé mourir si loin de la pauvre Rosine. Ah, ils étaient déjà réunis dans ma pensée. Qui que vous soyez, qui déplacerait carino, ne méprisez pas ce petit oiseau. Il fut tendrement aimé de Jean-Jacques et de sa Rosine. Je vais, en peu de mots, faire son histoire. Je la mettrai au fond de la petite boîte, vous la lirez. Elle vous intéressera et vous remettrez carino sur le tombeau de son ami. Je me nomme Rosine. Mon père, dont j'étais l'unique enfant, vivait à la Chaux-de-Fonds, dans la principauté de Neuchâtel. Il était habile horloger mécanicien et l'associé du fameux Jacques Drose, avec qui il composa ces figures organisées qu'ils appelaient des automates, qui furent admirées de toute l'Europe et qui ont fait les plaisirs de mon enfance. J'étais cependant un peu jalouse du petit dessinateur et de la petite musicienne. Ils étaient si obéissants, si dociles, si attentifs à leur ouvrage qu'on me les présentait sans cesse pour modèles. « Vois, Rosine, me disait mon père, comme ils sont plus sages que toi. Je n'ai d'autre souci que de les monter. » Et ils travaillent sans la moindre distraction, tandis que ton nez est toujours en l'air, aussi sont-ils beaucoup plus habiles que toi. « Mais papa, disais-je, ils font toujours les mêmes choses. J'en conviens, mais ils les font bien. Et toi, tu barbouilles tout ce que tu fais. » Je les vis donc partir sans peine. J'aimais beaucoup mieux un charmant petit serin de canaris que mon père avait organisé pour moi, auquel on ne me comparait point et qui faisait tout mon bonheur. Il sifflait à merveille trois jolis airs l'un après l'autre, il tournait la tête, et pendant un quart d'heure, il sautait d'un bâton à l'autre dans sa jolie cage, de l'air du monde le plus naturel. Je l'aimais à la folie, et lorsqu'après la mort de mon bon père, ma mère vint s'établir à moitié travers, chez une sœur qui y était établie, je n'eus garde d'oublier mon gentil automate que je nommais Bibi. Ma tante, chez qui nous logeâmes, était veuve aussi, et n'avait qu'un fils, plus âgé que moi de 5 ou 6 ans, et que j'aimais beaucoup. Lorsqu'il venait chez mon père, il avait 1000 complaisances pour sa petite cousine. J'avais souvent entendu nos mamans former le projet de nous marier ensemble, et j'en étais bien aise, car personne ne me plaisait plus que mon cousin Armand. Mais il n'en était pas question encore. J'étais dans ma 11e année, et mon cousin, qui en avait 17, était élevé à Paris, chez un parent de son père qui l'avait demandé. Je fus fort triste de ne pas le trouver chez lui. Il ne fallut pas moins que les caresses de ma bonne tante, dont j'étais l'enfant gâté, et la gentillesse de l'oiseau automate pour me consoler. Je le montais 20 fois par jour sans me lasser jamais de l'éternelle répétition des 3 airs qu'il sifflait. Il est vrai qu'ils étaient charmants et nouveaux. C'étaient 3 airs du devin du village. « J'ai perdu mon serviteur », etc. « Si des galants de la ville » et « Le charmant vaudeville de la fin ». C'est un enfant, c'est un enfant. On m'en avait appris les paroles, je les chantais avec une voix juste et fraîche, le serin m'accompagnait en balançant sa petite tête à droite et à gauche, et nous formions ainsi de petits concerts, peu variés, il est vrai, mais qui n'enchantaient pas moins mes bonnes parentes et moi-même. J'appris enfin à connaître d'autres plaisirs que celui de chanter avec un automate. Nous occupions, avec ma tante, un décor de logis de la maison. Il y en avait un autre, séparé par un petit jardin, et qui n'était pas habité. Un vieux monsieur de Neuchâtel vint proposer à ma tante de louer ce pavillon, qui était très petit, à un de ses amis. C'était, lui dit-il, un homme sur le retour, maladif, bon, doux, tranquille, n'ayant avec lui qu'une gouvernante qui le soignait et faisait son ménage. Ma tante accepta, et son locataire ne tarda pas à arriver. C'était Jean-Jacques Rousseau. On en parlait très diversement, les uns comme d'une divinité, les autres comme d'un méchant homme. Ma tante prenait son parti parce qu'il logeait chez elle, et ma mère parce qu'elle avait lu un roman de lui qui lui avait fait plaisir. Pour moi, petite fille, je n'en pensais ni bien ni mal. Mais sa physionomie me plaisait, et son costume m'amusait. Il portait une longue robe garnie de fourrure, rattachée au milieu du corps par une large ceinture, et sur sa tête un bonnet fourré, aussi en forme de turban. Il ressemblait ainsi à un automate turc que j'avais vu chez mon père, qui frappait de la timbale. Tout le monde, à Moutier, l'appelait l'Arménien Jean-Jacques. Moi, je le nommais toujours l'automate Jean-Jacques. Je me mettais à la fenêtre dès que je le voyais sortir de chez lui. Il se promenait tout seul, avec une grande boîte de fer blanc sous un bras et un livre sous l'autre. Quelquefois, je me trouvais sur son passage et je lui faisais une grande révérence qu'il me rendait par un sourire de bienveillance et quelques mots caressants, car il aimait les enfants et savait s'en faire aimer. Ma tante, qui l'avait reçu à son arrivée, et qui voyait souvent Mademoiselle Thérèse Levasseur, sa gouvernante, disait qu'il était le meilleur des hommes, simple lui-même comme un enfant, mais sauvage et singulier dans sa manière de vivre. Il herborisait dans la matinée, faisait des lacets sur un coussin dans la soirée, et dans ses moments perdus, il s'occupait d'un serin de canaris qu'il avait apporté avec lui et qui était sa seule société. Cet oiseau qui nous rapprocha l'un de l'autre est le pauvre Carino renfermé dans cette boîte. Les fenêtres de mon cabinet étaient vis-à-vis de celles de notre voisin. Son oiseau avait la liberté de voler dans la chambre, mais non pas celle d'en sortir. Attiré par le chant du mien, et profitant d'un moment où l'on ouvrit la fenêtre, il s'échappa, traversa rapidement le jardin, et se plaça sur la cage de Bibi que je venais de monter et qui débitait ses 3 airs. Qu'on juge de mon enchantement en voyant arriver ce second oiseau. Il commença aussi à chanter après avoir écouté un moment. Mais ce n'était pas des airs, c'était une mélodie bruyante et variée, toute nouvelle pour moi, et qui me parut délicieuse. Il tournait aussi sa tête en chantant, mais avec beaucoup plus de grâce que Bibi, et d'un air bien plus intelligent. Je lui tendis le doigt, il s'y plaça, puis sur mon épaule, puis sur ma tête, tandis que Bibi, ayant fini son chant, sautait régulièrement d'un bâton sur un autre, toujours à la même place, jusqu'à ce qu'il s'arrêtât tout à fait. Le nouveau venu retourna sur sa cage, puis sur mon doigt. Je le trouvais charmant, et je l'approchais de mes lèvres, lorsqu'un coup de sifflet et le nom de Carino, répété plusieurs fois, le firent partir à tire-d'aile. Il se posa encore sur un arbre du jardin, puis rejoignit son maître que je voyais à la fenêtre l'appeler sans relâche. Quand il l'eut repris, il me fit un signe qui exprimait le plaisir de le revoir et une félicitation sur la sagesse du mien qui ne sortait pas. Un moment après, je vis notre voisin traverser le jardin et entrer chez nous. Bientôt, on m'appela. Je le trouvai assis entre ma mère et ma tante. « Je viens vous remercier, ma belle enfant, me dit-il avec bonté, de l'accueil que vous avez fait à mon oiseau. Je vous dois des excuses du mauvais exemple qu'il donne au vôtre, mais vous l'avez mieux élevé. Il se trouve bien auprès de vous, il ne vous quittera pas. » « Oh non, monsieur, dis-je en riant, il ne s'envolera pas, j'en suis bien sûre. je voudrais bien qu'il puisse en voler. Pour avoir le plaisir de le voir revenir, sans doute. Voulez-vous me le montrer ? Il siffle à merveille à ce qu'il m'a paru des airs, que je siffle aussi quelquefois. Je courus le chercher, et son immobilité parfaite lui bientôt apprit ce que c'était, car le ressort avait fini son jeu. « Quoi, c'est un automate ? S'écria-t-il avec surprise. De ma fenêtre, j'y ai été complètement trompé, et je l'ai cru plein de vie. » Il le prit, l'examina. Je lui racontai que c'était l'ouvrage de mon bon papa que j'avais tant regretté. Je lui montrai comment on le montait, et dès qu'il le fut, il recommença ses petits mouvements, ses petites cadences, et puis les trois airs les uns après les autres, qu'il n'était pas question d'arrêter. Mon cœur battait de plaisir, car je voyais visiblement que l'automate Jean-Jacques en avait beaucoup à entendre l'automate Bibi. J'en attribuais la gloire à ce dernier, et j'en prenais bien une petite portion pour sa maîtresse, ignorant alors qu'un auteur a toujours du plaisir à entendre ou voir ses ouvrages, et que j'avais devant moi celui des jolis airs tant répétés. Ses yeux assez petits, mais noirs et pleins de feu, avaient une expression d'orgueil et de joie. Elle augmenta encore lorsque ma tante m'ordonna de chanter les paroles. J'obéis promptement, car j'en mourais d'envie. Je crois le voir encore, ce bon Jean-Jacques, m'écoutant avec délice, battant la mesure sur ma main qu'il avait prise dans les siennes et répétant d'une voix douce, juste mais un peu cassée, « C'est un enfant, c'est un enfant. » Et un aimable enfant, ajouta-t-il quand l'air fut fini, en pressant de ses lèvres la main qu'il avait gardée dans les siennes. Il voulut savoir comment je m'appelais. « Rosine, monsieur. » « Ce nom vous va fort bien. Et vous, savez-vous comment je m'appelle ?» Je baissai les yeux en souriant sans répondre. Ma mère trouva très plaisant de lui dire que je l'avais baptisé du nom d'automate à cause de son vêtement, et il en rit beaucoup. « Elle a plus raison que vous ne pensez, lui dit-il. Plût au ciel que je n'eusse été qu'un automate ou que je puisse le devenir. C'est à cela que j'aspire. D'ailleurs, c'est un moyen de plaire à Rosine. Elle aimait tant son serin. » Il avait raison de parler au passé, car sans savoir pourquoi, il me semblait que j'aimais déjà moins Bibi. Il était démonté. Je lui trouvais l'air si imbécile avec son bec entrouvert et sa figure immobile. Je le remis dans sa cage pour l'emporter. « Bien obligé, bonne Rosine, me dit notre aimable voisin. Je sais bon gré à votre gentil automate. Sans le savoir, il vous occupait de moi, il vous a appris très bien des airs que j'aime à entendre. » Mais je crains cependant qu'à la fin il ne vous ennuie. Oh, non, monsieur, jamais. Ils sont si jolis. Il parut attendri. Douce petite, me dit-il, puisses-tu conserver cette précieuse innocence et ne t'ennuyer jamais de ce qui t'a plu une fois. Veux-tu m'aimer, Rosine, comme tu aimais ton bon papa ? Les larmes me vinrent aux yeux au nom de mon père, et je répondis en secouant la tête. Je veux bien vous aimer, monsieur, et je vous aime déjà. Mais comme mon papa... « Oh non, je ne le pourrais pas. Je sens que je n'aimerai jamais personne autant que j'aimais mon papa. »« Excellente fille. Eh bien, aime-moi donc comme un ami. Appelle-moi ton vieux bon ami. Tu le veux bien, n'est-ce pas ?» Il mit un accent si tendre dans ses derniers mots que je me jetai dans ses bras. De ce moment, je fus sa Rosine, sa bonne fille, et lui mon bon vieux ami. « Daignez me confier votre enfant, dit-il à ma mère. Je me suis souvent occupée d'éducation. » Et j'ose vous assurer, en toute confiance, qu'elle s'en trouvera bien. » Ma mère le remercia avec attendrissement et lui dit qu'elle s'en reposait entièrement sur lui. « Te voilà donc, ma fille, mon élève, ma Sophie, » me dit-il en me serrant dans ses bras. « Je voudrais que tu te fusses appelée Sophie, mais le nom de Rosine te va si bien, il m'intéressera aussi. » Après quelques moments d'entretien sur ce que je savais, ou plutôt sur ce que je ne savais pas, car je n'avais guère appris qu'à soigner mon serin, il me proposa d'aller rendre à Carino la visite qu'il m'avait faite. « Il n'a que le chant de la nature, dit-il, mais il le varie sans cesse et le redouble quand je lui réponds, comme pour me répondre à son tour. Tu sentiras la différence d'un automate à un être vivant et sensible. De plus, mon cher Carino me donne le plaisir de le rendre heureux. » Ce qui trouble le plaisir d'avoir des oiseaux dans sa chambre, dit ma mère, c'est l'obligation où l'on est de les tenir en captivité. Vous avez raison, madame. Ce fut pendant longtemps ce qui m'empêcha d'en avoir. Le premier des biens est la liberté. Pénétrée de cette idée, j'avais le mauvais goût de préférer un chat à cause du goût de son espèce pour l'indépendance. mais je finis par trouver que les chats ressemblent trop aux hommes. Ils ont comme eux la liberté du coup de griffe et ils s'en servent trop souvent. Une amie bien chère me donna Carino et dès ce moment les chats perdirent leur crédit chez moi. Je frémis à l'idée que si l'un d'eux apercevait mon pauvre oiseau, il le traiterait aussi mal qu'on a traité son pauvre maître et qu'il serait aussi déchiré à belles dents. D'ailleurs, Carino n'est esclave que de son amitié pour moi. Sa cage n'est jamais fermée, il ne m'a quitté encore que pour visiter Rosine, et je l'en aime davantage. Viens, ma fille, je veux que tu fasses plus ample connaissance avec lui. » Nous sortîmes ensemble, nous tenant par la main, et j'étais déjà tout à fait familiarisée avec lui. En traversant le jardin, il me nomma plusieurs plantes dont j'ignorais les noms, et me promit de m'apprendre à les connaître toutes. En entrant dans sa chambre, il me présenta Mademoiselle Thérèse, qui était occupée à la ranger. « C'est ma fille, dit-il, et je veux qu'elle ait ses entrées libres chez moi. » Je courus d'abord à la cage de Carino. Elle était ouverte. Mon vieux ami l'appela en lui présentant un petit morceau de sucre qu'il vint becqueter. Il voltigea ensuite tour à tour sur nos têtes, sur nos épaules. J'eus le plaisir, inconnu avec le mien, de lui faire manger des grains entre mes lèvres. Il nous régala ensuite de son joli chant. Il volait dans tous les coins de la chambre avec un air si content. Je le suivais des yeux avec transport, et je sentis que l'insipide Bibi avait grand besoin d'être un don de mon père et de chanter les airs de mon vieux ami pour m'intéresser encore. Depuis ce jour, je devins l'élève de Jean-Jacques. Il tint tout ce qu'il avait promis à ma mère, en m'apprenant ce qu'il savait de bien et me laissant l'ignorance du mal. Par ses soins, je devins une passable musicienne. J'appris les noms de toutes les plantes usuelles et assez de botanique pour les classer moi-même. J'appris de l'histoire et de la géographie ce qu'il en fallait pour comprendre les gazettes que je lisais à ma tante. Je lisais avec lui quelques morceaux choisis des meilleurs auteurs français, quelques tragédies de Racine, Télémaque en entier, peu d'ouvrages modernes, et des siens seulement quelques pages d'Émile, qui me firent comprendre pourquoi il me nommait quelquefois « sa Sophie ». Ce nom réveillait en lui mille souvenirs doux et pénibles. Il le prononçait souvent, caressant Carino. Il me dit que celle qui le lui avait donné portait ce nom qu'il ne prononçait jamais sans émotion. Ce fut dans un de ces moments qu'il me dit, les larmes aux yeux, « Bonne Rosine, si tu m'aimes encore quand je ne serai plus, porte Carino sur ma tombe lorsque sa vie aussi sera terminée. Tu le placeras sur la pierre qui couvrira ton vieux ami. Ce sera peut-être le seul être qui m'aura toujours aimé. » Ce fut à mon tour de pleurer. « Tais-toi, lui dis-je en portant ma main sur sa bouche. Tu dis qu'il ne faut pas mentir. Et à présent, tu ne dis pas la vérité. Tu sais bien que je t'aime, que je t'aimerai toute ma vie. » « Toute sa vie, » répéta-t-il en souriant. Puis il me donna un baiser sur le front en renouvelant sa prière de placer Carino sur sa tombe. Je le lui promis. Hélas, il ne prévoyait pas alors qu'il irait mourir si loin de moi et que bientôt nous serions séparés à jamais. Il voulait, disait-il sans cesse, se fixer à moitié pour le reste de sa vie. Il voulait voir sa Rosine femme, mère et nourrice. Quand il me disait cela, je riais et je pensais à mon cousin Armand, qui manquait seul à mon bonheur. Il revint, et son arrivée occasionna mes premières découvertes sur le caractère défiant et ombrageux de mon vieux ami. Je lui avais vu souvent des moments d'humeur, ou plutôt de tristesse, mais ils étaient ordinairement causés par quelques propos de Mademoiselle Thérèse, et une caresse de Rosine ou le chant du serin la dissipait bientôt. Armand arriva sans être attendu. Nous étions à souper. On comprend notre joie, c'était à qui lui prodiguerait plus de caresses. Il était cependant devenu un grand beau monsieur de très bonne façon, qui aurait dû m'intimider, mais pour moi c'était toujours mon Armand. Il ne pouvait non plus en croire ses yeux en retrouvant sa petite Rosine avec le maintien de grande fille, de l'aisance, de la grâce et un accent très pur. Car mon vieux ami, qui attachait beaucoup de prix à ses avantages chez une femme, ne me passait aucun mauvais terme, aucune inflexion aigre ou fausse, aucune mauvaise contenance. Il me faisait tenir droite, sans roideur. Il ramenait mes bras en avant pour qu'en marchant ou sautant, je n'eusse pas, disait-il, l'air d'une sauterelle. J'avais donc, grâce à ses leçons, une très bonne tenue. À chaque surprise de mon cousin, à chaque éloge, je me hâtais de répondre. c'est mon vieux ami. » Mais combien son étonnement augmenta lorsque je lui nommais ce vieux ami. Il courait hors de lui-même par la chambre en répétant « Jean-Jacques Rousseau est ici, il est votre ami, est-il possible que je suis heureux ? Quoi, je pourrais le voir, l'entendre ? Dès ce soir, si tu veux, Armand, je vais chez lui quand il me plaît. » Nos mères nous firent observer qu'il était trop tard, que la maison serait fermée, que Mademoiselle Thérèse grognerait. Et malgré sa frénésie et son impatience, M. Armand fut obligé d'attendre au lendemain. Toute la soirée, il nous entretint de Rousseau, de ses ouvrages, des amis et des ennemis qu'il avait à Paris. Il nous dit que lui, Armand, était collaborateur d'un journal et qu'il se réjouissait beaucoup d'y parler de Jean-Jacques Rousseau, de sa retraite à Mautier et de tout ce qu'il aurait vu et entendu de cet écrivain célèbre. « L'on saura, me dit-il avec fierté, que tu es son élève, le nom de ma Rosine sera placé à côté de celui de Julie et de Sophie. » Cela ne me plaisait pas trop, mais dans ma joie de revoir mon cousin, je ne voulus pas le contrarier. À peine étions-nous levés, qu'il me conjura de le conduire chez mon vieux ami. Je n'y allais jamais de si bonne heure, mais je cédai, nous ne le trouvâmes pas. Il était déjà sorti pour herboriser. Thérèse préparait son café et nous dit qu'il ne tarderait pas à rentrer. J'ouvris sa chambre pour nous y établir en l'attendant, je caressai Carino, je contai à mon cousin son histoire et celle de l'automate, ce qui l'amusa beaucoup. Je m'assis ensuite au clavecin et déchiffrai quelques ariettes. Pendant ce temps-là, Armand touchait tout, regardait tout, ouvrait tous les livres et prenait des notes sur son portefeuille lorsque mon vieux ami rentra. Bon Dieu, comment est-il possible qu'un homme puisse devenir aussi différent de lui-même ? Cette aimable et bonne physionomie qui me souriait toujours devint sombre, farouche. Son regard exprimait l'indignation et la colère la plus violente. Il le porta d'abord sur Armand, puis sur moi. « Que faites-vous ici, Rosine, avec ce jeune homme ? Pourquoi me l'amenez-vous ? Qui est-il ? Que me veut-il ? » « C'est mon cousin Armand, répondis-je, toute tremblante, qui est de retour de Paris et... »« Dieu, de Paris !» dit-il avec un accent terrible, en cachant son visage dans ses deux mains qui tremblaient de colère. « Je vois. Je comprends. Retirez-vous. Laissez-moi, laissez-moi. » Il se promenait avec agitation. Armand le suivait en lui faisant des excuses et lui nommant des gens de lettres de Paris qu'il connaissait. À chaque nom, à chaque pas, la fureur de Jean-Jacques redoublait et son terrible « laissez-moi » devenait plus positif. Je voulus aller prendre Carino dans sa cage pour m'aider à l'apaiser. « Laissez cet oiseau, Rosine, vous n'êtes plus digne de lui. Il est le seul être qui ne m'ait pas trahi. » Je vis bien qu'il fallait laisser passer ce mauvais moment. Et prenant mon cousin sous le bras, je sortis bien affligé, en le grondant beaucoup, sûr que c'était lui qui avait ainsi hérité mon vieux ami. Je pleurais aux sanglots et lui riais aux éclats. Il était enchanté, disait-il, d'avoir cette scène à raconter à ses amis et à mettre sur son journal. Et moi, les mains jointes, je le conjurais de n'en parler à personne, en lui assurant que je saurais bien apaiser mon vieux ami. Je voulus y retourner seul l'après-midi, mais il lui vint des visites d'étrangers, ce qui arrivait quelquefois, et ces jours-là je ne me montrais pas. Ils restèrent deux jours, qui me parurent bien longs. Je lui écrivis un mot pour lui demander excuse pour Armand et moi, le conjurant de me pardonner mon tort involontaire. Je portai moi-même mon billet à Mademoiselle Thérèse, que je trouvais, comme à son ordinaire, de très mauvaise humeur. Elle me dit qu'on en voulait à son maître et que sa vie n'était pas en sûreté s'il restait à Mautier. Il y avait, il est vrai, beaucoup de gens contre lui. Mais il était adoré du plus grand nombre, et Mademoiselle Thérèse disait tant de sottises que celle-là me fit peu d'impression. Je ne veux raconter que ce qui a rapport à Carino et ce que je sais positivement. Je ne parlerai donc de la fameuse lapidation qui eut lieu cette même nuit que pour rappeler qu'elle fit partir subitement Jean-Jacques de Mautier et me causa ainsi une peine bien cruelle. On peut en voir les détails dans ses mémoires. Le lendemain matin, nous étions occupés tristement de ce qui s'était passé chez lui pendant la nuit, et j'allais essayer de pénétrer jusqu'à lui pour le consoler, lorsqu'une fille qui aidait dans son ménage vint m'apprendre leur départ subit, en m'apportant, de la part de mon vieux ami, Carino dans sa cage, et ce billet. « Adieu, Rosine. Il m'en coûterait trop de te haïr. C'est bien assez de te quitter. Je veux te croire innocente de la conspiration qui me chasse de Mautier. Je voulais y passer le reste de ma vie, mais je ne veux pas la perdre par un supplice qui n'est destiné qu'aux méchants. Je pars, chère et bonne fille. Non, tu n'es pas coupable, tu n'as pas conspiré contre celui qui t'aimait. Mais qu'ai-je fait à ce jeune homme pour venir m'épier, pour se liguer avec mes ennemis? Tu l'aimes, Rosine, il est ton cousin, il sera ton mari. Eh bien, qu'il te rende heureuse, et je lui pardonne. Je pars, je vais dérober ma triste existence à ceux qui la poursuivent. Rosine, je ne te reverrai plus, mais tous les jours je penserai à toi, jusqu'à celui où ma pensée s'anéantira pour jamais. Je ne sais où ma fatale destinée va me conduire, peut-être au-delà des mers. Carino ne peut me suivre, il faut nous séparer, et ce n'est pas le moindre de mes chagrins. Il fut le gage d'amitié de la femme que j'ai le plus aimée, qu'il soit pour toi celui de la mienne. Soigne Carino, Rosine, comme tu aurais soigné ton vieux ami s'il fût resté auprès de toi. Qu'à chaque instant il te le rappelle, et souviens-toi que tu m'as promis de réunir dans le même tombeau, s'il est possible, Jean-Jacques et l'oiseau de Sophie. Si ma dernière demeure est trop éloignée de la tienne, si les ondes m'engloutissent, si je péris ignoré dans une terre étrangère, tu me remplaceras, et mon serein reposera près de toi. Adieu, Rosine. N'oublie pas ton malheureux vieux ami, ton père, ton instituteur, et que tes vertus prouvent que celui qui instruisit ta jeunesse était vertueux. Ce n'est pas mon histoire que j'écris, et mon papier est prêt d'être rempli. Je n'entrerai donc pas dans le détail de mon chagrin profond, de mes larmes, de mes éternels regrets. Je n'ai plus revu mon vieux ami, mais je n'ai jamais cessé de penser à lui, et mes soins continuels ont prolongé la vie de Carino beaucoup au-delà de celle des serins ordinaires. Il a survécu à notre protecteur, dont j'appris la mort avec un redoublement de regrets. Retenu à moitié par les soins que demandaient la vieillesse et la santé de mes deux mères, car celle d'Armand devint la mienne, joint à mes nouveaux devoirs de mère et de nourrice, je n'avais pu faire le pèlerinage d'Hermenonville, quoique je l'eusse passionnément désiré pour revoir encore une fois mon excellent instituteur. Mais je lui avais écrit et j'en avais reçu une réponse. Il n'avait oublié ni Rosine, ni Carino. Ce dernier expira doucement de vieillesse, après avoir encore chanté un moment auparavant, comme pour me faire ses adieux. Je le fis empailler par un artiste de mon pays. Il m'offrit de l'organiser comme le mien, mais je n'aimais plus les automates, et Carino devait dormir avec Jean-Jacques. Je voulais seulement le conserver pour remplir un jour ma promesse. Enfin, le moment en est venu. Armand, qui a des correspondants à Paris, apprit qu'on transportait au Panthéon les restes de Rousseau et qu'on lui élevait un monument. Il m'offrit de m'y conduire, juger si j'acceptais. J'amenais avec moi mes deux enfants, mon Émile et ma Sophie, nommés ainsi en mémoire de mon vieux ami. Ils m'ont accompagné au Panthéon, son ombre les bénira. Je les ai nourris comme il me l'avait tant de fois recommandé. Je les ai élevés d'après ses principes, et jusqu'à présent je n'ai qu'à m'en féliciter. Si cet écrit tombe entre les mains d'un ami de Jean-Jacques, il le lira avec intérêt et remettra peut-être Carino auprès de son maître. Et quel autre qu'un ami de Jean-Jacques visiterait son tombeau avec assez d'attention pour y découvrir le modeste petit cercueil que j'y vais déposer. Rosine M. Ah, sans doute c'était une amie qui l'avait trouvée et qui l'a reportée avec un saint respect sur le monument de Rousseau, en demandant qu'il n'en soit plus ôté. Je n'ai gardé que l'écrit de Rosine, dont je ne garantis point l'authenticité. Il porte cependant un tel caractère de vérité et de simplicité qu'il ne doit laisser aucun doute. Car qui pourrait avoir engagé Rosine à mentir? Rien, il est vrai, ne confirme cette anecdote dans les mémoires de Rousseau, et ce petit épisode valait bien quelques-uns de ceux qu'on y trouve. Mais cette liaison avec Rosine a eu lieu dans un des moments de sa vie où il était le plus agité, malheureux, occupé de tristes pensées. Ses confessions finissent avec son séjour à Moitié, et j'y vois qu'il y avait formé des liaisons assez intimes sur lesquelles il n'entre dans aucun détail. Je veux croire que ma petite Rosine était du nombre. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'elle et son oiseau ont droit d'intéresser ceux qui, comme moi, ont aimé et plaint Jean-Jacques Rousseau.